Il est 10h42 et maintenant nous recevons Sarah, Marie-Catherine, Salomé et Anne-Mélodie dans le cadre de leur cours de communication orale pour nous parler d'un aspect de l'IA. On va commencer ça avec Sarah. Tu peux commencer.
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Sarah Chirel et s'il y a un mot qui me décrit tant bien que mal, c'est le mot « passion ». Et cette passion, je l'exprime à travers des textes. Ainsi, à l'occasion de cette journée, j'ai préparé un mini-slam que je vous prie de recevoir avec un esprit ouvert. L'IA, cette voleuse de rêves. Écrire et donner forme au monde par des lettres était mon rêve. Guérir par des mots doux et soigneux me donnait l'impression d'être reine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit-on si souvent. Dans mon cas, c'est par mes écrits que je retrouve espoir, car dans chaque consonne, chaque syllabe résonne comme un écho de vie. Ce rêve, eh bien, très chers auditeurs, très chères auditrices, fut de courte durée. Plusieurs la décrivent comme une révolution. Cette IA, moi, je la décris comme le déclin d'une passion. Elle s'initie dans les cœurs, prend place dans les pensées et surtout inhibe la créativité. L'évolution des technologies n'était pas censée apporter un plus à l'humanité? Pourquoi alors est-elle en train de tuer ce qui fait la particularité de l'humain? Oui, la réflexion. Plus personne ne veut réfléchir. Plus personne ne veut s'exercer au plaisir d'apprendre, de faire des recherches ou même de créer. Ne sommes-nous pas tous des créateurs? Des êtres dont l'imaginaire donne vie à ce qui n'existait pas? Voyez-vous, très cher, je n'ai rien contre cette création. Mais entendez l'amertume de mon cœur. Je sais qu'elle facilite la vie de plusieurs. Je le sais. Je le vois. Je le comprends. Mais mon texte aujourd'hui n'est point égoïste. Il est le cri d'une jeune femme de 23 ans, voir son rêve peu à peu, qui s'envole. Alors, voici la fin de mon slam. J'ai conçu ce slam dans la perspective de sensibiliser aujourd'hui tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, surtout ceux dans des domaines d'art comme l'audiovisuel, la rédaction, la publicité ou même la musique. L'intelligence artificielle n'est pas censée remplacer la créativité, mais elle peut, je le crois, aider au processus créatif. Je crois en la capacité de l'être humain de créer de belles choses. Et pour finir cette question, est-ce que l'utilisation excessive de l'IA ne révélerait pas un manque de confiance dans nos propres capacités à produire quelque chose de beau et unique?
Merci. Maintenant, Marie-Catherine, tu peux commencer.
Burkina Faso, Égypte, Tunisie, Algérie, Maldives, Grenade, Jamaïque. La liste est longue, plus précisément, la liste comprend 65 pays. 65 pays où s'aimer librement est criminalisé. À l'ère d'une société qui se prétend ouverte face aux enjeux de la communauté LGBTQIA+, se logent aussi des technologies aux éclosions dangereuses. Aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle dont il sera question. Je vous vois venir, vous me direz qu'on entend parler de ChatGPT matin, midi, soir, et je vous l'accorde. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une IA tout autre que j'expose, soit celle nommée Gaydar. On se replonge dans un contexte autre que le contexte actuel. Un contexte où l'IA en général était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes en 2018 et c'est Cynthia Weber, professeure en relations internationales et études sur le genre à l'Université de Sussex, qui nous met au fait. 35 000 étudiants de l'Université de Stanford ont tenté de développer une technologie basée sur les données de certains sites de rencontres, afin de deviner si une personne est gay selon des analyses de traits physiques au niveau du visage. En se fiant sur des banques de données, la plateforme compose des portraits cibles qui, avouons-le, empêchent le stéréotype. Non seulement le concept en soi de la plateforme est infiniment problématique, celle-ci s'avère également être une menace dangereuse, pouvant possiblement incriminer quiconque ayant l'air gay ou l'étant réellement dans les 65 pays en question. Dégoûtant, problématique, dérangeant, les mots me manquent pour exprimer ma colère. Pourquoi utilisons-nous l'intelligence artificielle de la sorte, plutôt que comme outil afin de réduire les préjugés sociaux, la discrimination et l'homophobie? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester critiques, éduqués, consciencieux? Nous ne sommes pas des moyennes cumulatives, ni des portraits robots. Et laissez-moi apprendre quelque chose aux lumières qui sont à l'origine de la plateforme Gaydar aux États-Unis. Une orientation sexuelle, ce n'est pas une formule mathématique. Croyez-nous, si c'était un choix libre et éclairé, dû aux normes sociales qui patronnent notre société, une grande majorité d'entre nous aurait préféré cocher la case de l'hétérosexualité. Nous ne sommes ni des moyennes, ni des robots, ni des rats de laboratoire, et encore moins des criminels. mais notre société, elle, est malade. Ouvrons-nous les yeux, dénonçons la haine et surtout arrêtons de jouer à l'autruche quand l'IA, elle, ne fait que souligner nos problèmes sociaux en jaune fluo. Le problème n'est pas juste en Asie, il est partout, tout le temps, et non, le combat n'est pas gagné.
Merci. Maintenant, on va passer à Anne-Mélodie. Tu peux y aller.
Oui, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien à la maison. Mon nom, c'est Anne-Mélodie Gingras, étudiante en première année en communication à Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et l'anxiété de performance. Alors, vous avez peut-être déjà ressenti cette pression invisible, celle de devoir toujours faire mieux, toujours performer. Eh bien, cette anxiété de performance, déjà bien ancrée dans notre société, vient de trouver un nouveau carburant, l'intelligence artificielle. Depuis l'arrivée de l'IA, on nous dit qu'elle peut tout faire. Rédiger un texte, coder un site, corriger une dissertation, parfois même mieux que nous. Alors, comment ne pas se comparer? Comment ne pas douter de sa propre valeur quand une machine semble capable de faire en quelques secondes ce qu'on met des heures à produire? L'IA devait nous libérer du stress, simplifier nos tâches. Mais pour plusieurs, elle fait l'inverse. Elle renforce cette impression qu'on n'est jamais assez. Les étudiants se demandent pourquoi passer des heures à étudier si ChatGPT peut me résumer le cours en 2 minutes. Les professionnels se questionnent et si un jour, mon travail pourrait être remplacé par l'IA. L'anxiété de performance, c'est le besoin constant de prouver sa valeur. Et dans un monde où l'IA excelle dans l'efficacité, la productivité et la performance, cette anxiété se déplace. On ne veut plus seulement bien faire, on veut mieux faire que la machine. Mais il y a une nuance importante. L'intelligence artificielle, elle ressent rien. Elle ne doute pas, ne rêve pas, ne crée pas par émotion. Ce qu'elle produit, ce sont des résultats. Ce que nous produisons, nous humains, ce sont des intentions, et c'est là notre force. Alors peut-être qu'au lieu de voir l'IA comme une menace à notre valeur, on peut la voir comme un outil, un miroir, même qui nous pousse à redéfinir ce qui est réellement la performance. Parce que performer, c'est pas faire de son mieux, c'est pas faire mieux que la machine. C'est faire quelque chose qu'elle ne pourra jamais faire, être humain. Alors, si l'intelligence artificielle peut tout faire, tant mieux, mais elle ne pourra jamais ressentir la fierté d'avoir surmonté la peur d'échouer. Et ça, c'est la victoire à nous tous. Merci.
Ben merci. Ben maintenant, ça va être Salomé. Tu peux y aller.
Merci beaucoup. Alors, l'intelligence artificielle, une révolution? Vraiment? Eh bien, si par révolution, on entend perte de sens, bouleversement, voire déshumanisation, alors oui, on peut dire que cette mutation technologique est une belle réussite. Parce qu'on doit l'avouer, le monde artistique est menacé et jamais une invention n'aura autant effrayé et émerveillé à la fois l'être humain. Bon, maintenant, comme vous le savez, ces dernières années, on a assisté à une explosion de l'IA dans notre quotidien. Que ce soit à l'université, où certains étudiants l'utilisent pour rédiger leurs travaux, ou dans le monde du travail, elle s'impose partout et sans exception. Et selon une étude menée par le gouvernement du Québec, en 2024, c'est un emploi sur 5 qui est menacé par l'automatisation. Et le monde du cinéma n'y échappe pas. Certains métiers sont particulièrement touchés, comme les concepteurs d'effets visuels, les acteurs de doublage, les rédacteurs de scénarios, les ingénieurs du son, et j'en passe. Et mis à part l'aspect économique, l'IA soulève des questions éthiques majeures, parce qu'il est maintenant possible de modifier des voix, de créer des images hyper réalistes ou même de recréer des séquences vidéo complètes. Et ça, ça pose des dilemmes complexes. Comment reconnaître le travail humain dans une œuvre partiellement générée par une machine? Comment déterminer ce qui mérite d'être compensé ou non? Face à ces questionnements, il y a déjà des associations qui réclament un encadrement clair pour éviter que les prix et les distinctions honorent des performances purement numériques au détriment du talent humain. L'art, qu'il soit du cinéma, de la musique ou de la littérature, ça repose sur la capacité à transmettre des émotions et à partager une vision particulièrement propre à chacun. Puis, si on permet toujours à l'IA de remplacer notre imagination, eh bien, c'est nos films, nos séries et nos œuvres qui risquent de perdre ce qui les rend uniques et authentiques. Bon, là, j'entends déjà certains défenseurs de l'IA me dire « Oui, mais là, cette invention fait des miracles dans le domaine de la science, de la médecine, de la santé. » Eh bien, dans ce cas, ils n'ont pas tort. Dans ces domaines-là, l'IA peut déceler des maladies, prédire des traitements, puis même sauver des vies. Mais quand on parle du monde de la création, le vrai défi, c'est de trouver un équilibre pour pas qu'on cède notre place. Parce que la force du cinéma, ça réside dans notre habileté à imaginer, à créer et à concevoir. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Comment on veut utiliser ces outils-là dans notre processus créatif? Est-ce qu'on veut établir des limites plus claires, plus strictes? Ou bien simplement veiller à ce que l'IA reste une assistante? Une simple assistante, pardon. Merci beaucoup.
Ben merci. Puis ben merci à vous quatre. C'est très, très intéressant. Puis on a appris d'autres facettes de la vie de l'IA. Ben merci. Et puis pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, si vous voulez réécouter des segments, vous pouvez aller sur le site de CFAQ. Et je vous laisse sur Nuit d'orage. Alors, bonne fin d'avant-midi et bonne journée.